VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Billon, il est 11h30 universel. Bonjour à tous. Les Mauriciens sont appelés à voter jeudi pour un scrutin législatif qui doit permettre au Premier ministre sortant Pravind Jugnauth d'obtenir la légitimité populaire lui faisant défaut, même si pour la première fois en 4 décennies, il oppose 3 blocs distincts. Quelques 941 000 électeurs inscrits sont donc attendus aux urnes pour les 11e élections législatives sur l'île Maurice, une démocratie stable de l'océan Indien depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968. L'enjeu principal est la reconduction ou non de Pravind Jugnauth, 57 ans, qui avait succédé à son père Anirudh Jugnauth en 2017 en tant que chef du mouvement socialiste mauricien, le principal parti de la coalition au pouvoir sans passer par des élections. Situation sécuritaire difficile au Burkina Faso après un arrêt à N'Djamena. La ministre française des armées était hier à Ouagadougou. Elle a annoncé une nouvelle opération dénommée Burgo 4 pour faire face au terrorisme. L'opération se tiendra dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Certains observateurs expriment leurs doutes. À Ouagadougou, retrouvons notre correspondant Lamine Traoré.
Au lendemain de l'assassinat du maire de Djibo, Oumarou Diko, et de 3 autres de ses compagnons, la ministre française des armées est à Ouagadougou. Elle a rendu hommage au maire, mais à toutes les victimes du terrorisme. La ministre estime que la lutte contre le terrorisme avance au Sahel, particulièrement au Burkina Faso. La ministre française des armées, Florence Parly.
J'ai également eu la possibilité de partager avec le président, au-delà des événements tragiques qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le terrorisme, les progrès qui sont le fait de la collaboration qui se passe de façon très efficace entre Barkhane d'un côté et les forces armées burkinabées de l'autre.
La lutte contre le terrorisme doit continuer, d'où le lancement d'une nouvelle opération.
Le combat continue. Ce combat, il se mène ensemble aujourd'hui même avec le lancement d'une opération qui s'appelle Burgo 4, qui est conduite par Barkhane, mais avec la contribution éminente de 2 compagnies burkinabées et qui va se dérouler dans les prochains jours dans cette zone des 3 frontières, qui est la zone dans laquelle doit porter l'effort.
Mais selon les observateurs de la situation sécuritaire, cette opération Burgo 4 ne saurait éradiquer le terrorisme dans le Sahel.
Une opération qui serait localisée dans les frontières des 3 pays, Mali, Burkina et Niger, ne pourrait venir à bout que d'une fraction de ces organisations terroristes-là.
Siaka Koulibaly est analyste politique.
Il y en a qui sont localisées dans cette partie et qui agissent sur l'est de Burkina Faso, mais celles qui agissent à partir du nord, l'extrême nord du Mali, et qui sont aussi à la frontière de l'Algérie, il va peut-être être difficile de les éradiquer par la même opération Burgo 4. Mais on attend de voir les détails de cette opération et surtout ses résultats pour savoir si cette opération ou s'il en faut plusieurs autres pour arriver à bout de la nébuleuse terroriste qui sévit au Burkina Faso.
La situation sécuritaire s'est nettement dégradée ces dernières semaines au Burkina Faso. Après l'assassinat dimanche du maire de Djibo dans le Sahel, 5 gendarmes ont été tués lundi par des terroristes à Oursi, toujours dans le Sahel, selon plusieurs sources sécuritaires à VOA Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
2 jeunes gens sont morts hier à Conakry, en Guinée, selon les autorités, quand une marche organisée par l'opposition derrière le cercueil de Guinéens tués lors de récentes manifestations a dégénéré en nouveaux affrontements violents avec les forces de l'ordre. 6 autres participants à cette procession ont été blessés par les balles des forces de l'ordre, a annoncé l'opposition. Les défenseurs des droits humains dénoncent, eux, un usage excessif de la force par le gouvernement, des arrestations arbitraires et une répression visant à réduire l'opposition au silence. Au Sénégal, un juge d'instruction a procédé à ses premières auditions dans une affaire de corruption présumée dans le secteur du pétrole et du gaz, une affaire dans laquelle est cité le nom d'un frère du président sénégalais, Idriss Fall.
Au moins 3 personnes ont été entendues hier par un juge d'instruction à Dakar, dont le journaliste Mamadou Mout Bané et l'opposant député Mamadou Lamine Diallo, très critique vis-à-vis du frère du président. président. PetroTim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timmis, est au cœur d'un scandale. Selon une chaîne britannique, la société a versé une prime secrète de 250 000 dollars au frère du président Alu Sall, ce que celui-ci a démenti. Alu Sall, maire de Gedewaye, a démissionné le 24 juin de la Caisse de dépôt et consignation, une institution financière qu'il dirigeait depuis 2 ans. Le gouvernement a ordonné une enquête. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a lancé en juin un appel à témoins pour que les détenteurs d'informations sur la gestion du pétrole et du gaz puissent les livrer à la justice. Ainsi, plusieurs personnes ont été auditionnées par la division des investigations criminelles, la police judiciaire. La DIC a remis son rapport au procureur qui a saisi un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire.
Le Parlement algérien lance aujourd'hui les débats sur une loi controversée sur les hydrocarbures contre laquelle de nombreux Algériens ont manifesté estimant que ce texte revient à brader le pays aux multinationales étrangères. Critiquée ou soutenue dans les médias depuis plusieurs semaines, cette loi adoptée le 14 octobre en Conseil des ministres n'a pas encore fait l'objet d'une publication officielle. Des motus différents ont circulé auprès des médias. L'Algérie est secouée depuis le 22 février par un puissant mouvement de contestation qui a poussé le président Abdelaziz Bouteflika à la démission en avril après 20 ans à la tête de l'État et qui se poursuit avec des manifestations chaque mardi et vendredi réclamant le départ de l'ensemble du système au pouvoir.
Nos infos sur voaafrique.com.
Hors du continent, le président iranien Hassan Rouhani a annoncé aujourd'hui une nouvelle réduction des engagements pris par son pays devant la communauté internationale concernant son programme nucléaire. L'Iran va reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium dans son usine de Fordo à quelques 180 km au sud de Téhéran, gelée depuis l'entrée en vigueur de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Il s'agit de la 4e étape du plan de réduction des engagements iraniens en matière nucléaire à lancer en mai en riposte au retrait des États-Unis un an plus tôt de l'accord de Vienne, a indiqué M. Rouhani. Au Liban aussi, la contestation s'est poursuivie hier pour le 19e jour consécutif, les manifestants bloquant les routes et administrations publiques dans une mobilisation massive contre une classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. Bagasikoura.
Hier soir, les manifestants ont encore afflué vers les lieux de rassemblement à Beyrouth, la capitale, ainsi qu'à Tripoli, la deuxième ville du pays dans le nord, et à Saïda dans le sud. Ils ont installé des barricades sur de nombreuses routes, se livrant au jeu du chat et de la souris avec la police anti-émeute. Durant les 2 premières semaines de ce mouvement, les banques, universités, écoles et de nombreux commerces ont été fermés. Ce soulèvement a entraîné la démission le 29 octobre du Premier ministre Saad Hariri et de son gouvernement qui gère les affaires courantes. Les contestataires réclament un changement de fond en comble du régime politique dominé depuis des décennies par les mêmes partis ou familles. Les Libanais sont aussi exaspérés par l'absence de services publics avec de graves pénuries d'eau et d'électricité et une gestion archaïque des déchets. Les manifestants maintiennent la pression dans l'espoir de voir émerger un nouveau gouvernement indépendant et compétent. Le président Michel Aoun doit engager des consultations en vue de désigner un nouveau premier ministre, mais jusque-là, aucune date n'a encore été annoncée pour le début de ces consultations.
Les États-Unis ont formellement notifié lundi à l'ONU leur sortie de l'accord de Paris sur le climat décidé dès 2017 par le président Donald Trump, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. La notification par les États-Unis à l'ONU, qui ne pouvait intervenir plus tôt en raison d'une clause inscrite dans le texte, enclenche un compte à rebours d'un an avant que Washington puisse effectivement quitter l'accord. Ce départ n'aura donc lieu au plus tôt que le 4 novembre 2020, le lendemain de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, à l'occasion de laquelle Donald Trump briguera un second mandat. Et puis,
Du sport pour terminer, les Springboks, vainqueurs de la Coupe du Monde de rugby, sont de retour aujourd'hui au pays pour un tour d'honneur aux alus de bouffées d'air frais dans une Afrique du Sud en crise un quart de siècle après la chute de l'apartheid. Érigés en héros depuis leur triomphe samedi 32-12 contre l'Angleterre en finale de l'édition japonaise du tournoi mondial, les premiers joueurs du 15 sud-africain sont attendus en fin de journée à l'aéroport de Johannesburg. La sélection doit faire une conférence de presse ce soir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.